This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacia. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20, ce soir au Venezuela, 8e semaine de mobilisation contre le président Maduro. Nous serons également à Washington, décryptage de cette première grande tournée internationale de Donald Trump. À 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger sur la résurrection de l'ancien dirigeant du Parti Socialiste Espagnol, Pedro Sanchez. Mais d'abord, l'Iran ou la promesse d'ouverture.
Michael Thébault, un jour dans le monde.
C'était ce week-end, le président iranien Hassan Rouhani, réélu dès le premier tour pour 4 ans avec 57% des voix contre 38% au conservateur Ebrahim Raisi. Très forte participation, 73% des Iraniens inscrits sont allés voter. Nette victoire donc du président réformateur, mais qui se retrouve face à de gigantesques attentes. Aller plus loin sur la voie de la libéralisation politique, lutter contre le chômage, notamment des jeunes, attirer plus d'investisseurs étrangers et bien sûr poursuivre sa politique d'ouverture vers le monde. Difficile chantier, surtout pour un président qui n'a pas les mains libres. Bonsoir Bernard Bourcade.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Géographe spécialiste de l'Iran, ancien directeur de l'Institut français de recherche en Iran, directeur de recherche émérite au CNRS. Et également avec nous, en direct de Téhéran, Mariam Pirzadeh. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes correspondante, Mariam, de France 24 en Iran. Alors d'abord, avec vous, Mariam, comment cette réélection d'Hassan Rouhani est-elle perçue chez vous en Iran? On n'a pas senti une énorme liesse populaire.
Alors, une réélection qui a été très fêtée samedi soir dans les rues. Il y a eu des scènes absolument inédites qu'on voit très peu en Iran, juste pour se rendre compte, les manifestations sont interdites, les rassemblements publics sont interdits en Iran, et effectivement jusque très tard dans la nuit, en tout cas à Téhéran, les Iraniens se sont mobilisés, se sont rassemblés pour aller fêter cette réélection. On a senti vraiment un soulagement. Il y a un jeune qui me confiait, on ne laissera pas passer Raisi. On a eu déjà les 8 ans, c'est pour parler des 8 années d'Ahmadinejad, dont on ne prononce jamais le nom, mais ces 8 ans qui ont profondément marqué les Iraniens, un homme d'une cinquantaine d'années, car on a beaucoup parlé de cette jeunesse, mais il n'y avait pas que cette jeunesse dans la rue, donc cet homme d'une cinquantaine d'années qui me disait, vous ne vous rendez pas compte, il y a 4 ans, avant l'élection d'Hassan Rouhani, lorsqu'on se réveillait le matin, on ne savait pas s'il y a une guerre aurait lieu, si de nouvelles sanctions allaient être décidées. Et là, c'est un soulagement, on est revenu au calme. Donc, une réélection fêtée dans la liesse, à Machad, aussi dans une ville sainte où les concerts sont interdits. Donc, on voit bien ce symbole, ces Iraniens qui ont voulu montrer, et ils me l'ont dit ce soir-là, vous voyez, il y a finalement la démocratie dans notre pays.
Rouhani réélu avec 57% des voix. Est-ce qu'on considère dans le camp réformateur que c'est un bon score, un bon résultat? Mariam Pirzadeh.
Alors, il y a 38... Oui, pardon, ouais. je pensais qu'on parlait à M. Orcal. Alors, 38%, effectivement, c'est beaucoup. Le camp réformateur, déjà, a eu d'autres déconvenues, puisque il y avait une autre élection qui était très importante, les conseils municipaux. Et les conseils municipaux de la ville, donc de la capitale, Téhéran, d'Isfahan, de Yazd, des plus grandes villes de l'Iran, sont tombées aux mains des réformateurs. Donc, nouvelle déconvenue pour les conservateurs, surtout la mairie de Téhéran, qui est très symbolique, qui était dirigée par les conservateurs depuis plus de 14 ans. Les réformateurs ont gagné la liste, donc il y aura un maire de Téhéran réformateur. Le maire de Téhéran, l'emblématique Mohamed Barer Khalibov, qui était d'ailleurs candidat à cette élection présidentielle et qui s'est retiré à la dernière minute pour soutenir le candidat Ebrahim Raisi, ne sera donc plus maire de Téhéran. Donc on voit bien qu'avec cette réélection d'Hassan Rouhani avec 57% des voix, avec ce raz-de-marée pour les conseils municipaux, et il y a un an et demi aussi avec l'élection parlementaire où les réformateurs ont gagné plus de sièges au Parlement, où la majorité conservatrice a été payée, on voit bien que les réformateurs sont en train de gagner du terrain et que les conservateurs en perdent. D'ailleurs, ce chiffre de 38%, quand on regarde les précédentes élections, est assez stable. Donc, on voit bien que c'est 38% de la population iranienne qui a vraiment voté pour Ebrahim Raisi. Il y a un Iranien qui a fait une comparaison très intéressante. Il m'a dit, c'est comme chez vous, Macron-Le Pen. Vous voyez l'électorat de Macron qui est l'électorat de Le Pen, ces gens-là ont vraiment voté pour Ebrahim Raisi, donc pour le camp conservateur.
Vous restez en ligne avec nous, Mariam Pirzadeh, Bernard Ourcade. Avant de parler des priorités du président iranien, quel est finalement son bilan après 4 années à la tête du pays?
Son bilan, c'est d'avoir réussi l'accord sur le nucléaire en 2015.
Il faut bien dire que l'interdiction d'envisager la discussion aux États-Unis était un des dogmes de la République islamique pendant 37 ans. Et Rouhani, avec l'accord du guide d'ailleurs, contraint et forcé, mais il l'a fait, a réussi à mener à bien l'accord sur le nucléaire, c'est-à-dire d'ouvrir la porte de l'Iran, qui résistait, qui était enfermé depuis 37 ans. Enfin, la porte est ouverte. Et donc maintenant que la porte est ouverte, c'est colossal. C'était la clé dont il parlait. Maintenant, il faut passer aux actes, c'est-à-dire passer à travers la porte dans les deux sens. Et là, c'est un défi qui n'est pas mince.
Alors justement, les priorités là actuelles pour les 4 années à venir, quelles sont-elles ?
Les priorités, c'est d'abord de consolider son pouvoir politique. L'élection de Rouhani, justement, vous disiez, est-ce que c'est un triomphe à 57%? Ce n'est pas un triomphe, ça aurait pu être 80%. Mais justement, ce n'est pas 80%, c'est-à-dire c'est pas une élection de maréchal, une élection de pays sous-développés où le chef de l'État est élu à 80%, non. C'est un rapport de force équilibré. Il y a des conservateurs en Iran, ils font 30-40%, il y a des réformateurs et il y a au milieu un marais, et donc il a un pouvoir assez solide, et comme c'est un renouvellement de son pouvoir, par rapport aux guides, par rapport aux conservateurs, par rapport aux populistes, il a donc son pouvoir installé, stabilisé. Pour faire bref, je dirais que cette élection, c'est la victoire de la révolution islamique de 78-79. Je ne parle pas de la prise du pouvoir par les religions en 80. C'est-à-dire les révolutionnaires qui ont fait la révolution pour la liberté, l'indépendance de la République, et l'islam aussi. Et donc l'Iran est vraiment devenu une république aujourd'hui, avec toutes les nuances et les problèmes que ça pose.
Alors cet accord sur le nucléaire de juillet 2015, Bernard Ourcade, a été signé sous la présidence Obama, mais aujourd'hui il est entre les mains de Donald Trump, opposition, on le sait, plutôt fluctuante hein, sur le sujet. Est-ce que c'est une menace pour l'Iran, Trump à la Maison-Blanche, et on voit encore les attaques depuis Jérusalem aujourd'hui?
Oui, c'est une vraie question. C'est-à-dire, on serait retrouvé en 2002, après les attentats du 11 septembre, qui pour certains étaient le fait de l'Iran. On parle un peu et l'année suivante, malgré le soutien de l'Iran aux États-Unis, malgré le soutien de l'Iran aux États-Unis dans la guerre d'Afghanistan, Bush a décidé en 2002 que l'Iran était sur l'axe du mal avec la Corée du Nord et l'Irak. L'Irak, c'est fini, la libération de l'Irak, entre guillemets, a eu lieu, la Corée du Nord est sur la scène, et l'Iran est en scène encore aujourd'hui. Donc il y a un vrai problème de ce côté-là, et donc il y a le problème des réalités alternatives, des vérités alternatives de Bush. Et pour Bush, le leader du terrorisme, le leader de Daesh, le financeur de Daesh, c'est l'Iran, à la surprise générale, mais c'est une vérité bushienne. Ou trumpienne.
Trumpienne désormais,
mais qui est une réalité politique et qui est pour l'Iran de Rouhani un gros problème puisque lui veut ouvrir la porte et alors que c'était lui qui va fermer jadis et aujourd'hui c'est les États-Unis qui veulent fermer. C'est un dilemme extrêmement gros pour l'Iran.
On s'y arrête précisément avec vous, Bertrand Galichet. Bonsoir.
Bonsoir Michael.
Service diplomatique de France Inter. Vous rentrez tout juste d'Iran, vous avez couvert cette présidentielle. D'abord, le résultat est-il en quelque sorte une validation, c'est ce qu'on disait, de la politique d'ouverture menée par Rouhani? Et puis Trump là-dedans, on en fait quoi?
Eh bien, comme on vient de le dire à l'instant, le président iranien fraîchement réélu se serait volontiers passé des coups de boutoir diplomatiques donnés ces dernières heures par Donald Trump, qui a appelé à isoler l'Iran. Même si Hassan Rouhani a balayé ses attaques d'un revers de main, il est obligé de se montrer ferme face à la rue iranienne qui doute. Voici Abbas, rencontré dans un quartier populaire et assez religieux de l'est de Téhéran. C'est le fils d'un ancien député proche de l'ex-président ultra-conservateur Ahmadinejad.
Ça, c'est le problème que maintenant, en Iran, les gens ont avec M. Rouhani. 4 ans, on a discuté avec les pays occidentaux, France, les États-Unis. Et à la fin, ce qu'on voit aujourd'hui, les problèmes économiques existent toujours. Les problèmes même politiques existent. Ça ne va rien régler, quoi.
Donc vous, ce que vous reprochez à M. Rouhani, c'est d'avoir trop fait confiance à l'Occident.
Bien sûr. Et mal fait confiance.
C'est-à-dire qu'il a mal négocié l'accord sur le nucléaire?
À mon avis, on ne doit jamais faire confiance aux pays occidentaux. Jamais. L'histoire, ça montre ce qui s'est passé pendant toutes ces années, 50 ans derniers. Et chaque fois qu'on a discuté, qu'on n'avait pas notre force, notre pouvoir avant la discussion, on a vu déjà le résultat.
Mais vous parlez de l'accord sur le nucléaire. Cet accord, il a été validé par le guide suprême.
Bien sûr, M. Khamenei, il ne dit pas que vous faites ça, vous faites ci. Mais ce qu'on a donné par rapport à ce qu'on a pris, c'est rien de tout. Continuer le gouvernement de M. Rouhani, ça n'a rien à voir.
Peut-être n'a-t-il pas eu assez de temps pour mettre en place
les
réformes?
Bien sûr, un arbre qui pendant 4 ans ne donne pas fruit, il ne donne jamais le fruit. C'est fini.
Ce quadragénaire qui n'a connu que la République islamique est furieux de l'ouverture vers l'Occident mise en œuvre par Rouhani. Il est d'ailleurs assez représentatif des Iraniens conservateurs de cette génération.
Et d'autres plus âgés, Bertrand, se montrent aussi critiques envers la politique internationale d'Hassan Rouhani, mais un peu plus mesurés.
Et c'est dans le mythique bazar de Téhéran que j'ai recueilli ce point de vue auprès d'un septuagénaire qui tient une échoppe de tapis. Cet homme a vécu la révolution des Mollahs en 1979. Une révolte appuyée, vous le savez, par les marchands du bazar et la bourgeoisie commerçante. Pour lui, la politique internationale de l'Iran doit préserver les intérêts financiers du pays. Les Iraniens sont accueillants, explique le vieil homme. Nous aimons tous les pays, dit-il, mais selon lui, les Américains avaient de mauvaises intentions. Ils voulaient profiter de la situation. Alors il sait que l'Iran a dépensé beaucoup d'argent pour le nucléaire et maintenant les installations sont fermées, dit-il, donc ce n'est pas équitable. La situation ne nous a pas permis de montrer le vrai potentiel de notre pays. C'est ce que regrette ce marchand qui ajoute « Les Occidentaux ont isolé l'Iran, ils ont montré une image noire de notre pays ». Mais une autre frange de la population espère au contraire que le président réformateur, largement réélu vendredi, va persévérer pour ouvrir en grand les portes du pays. Voici Amine, bien maquillée. Elle porte un léger foulard et des lunettes de soleil, une tenue très éloignée du tchador traditionnel. Pour elle, Hassan Rohani est la chance de l'Iran.
Il a prouvé au monde que les Iraniens cherchent la paix. C'est un Iran en marche.
Quelle est l'image que vous avez de M. Rohani ?
C'est un avocat. Il cherche la justice pour les gens, le dialogue entre les peuples et la paix. Nous soutenons aussi son ministre des Affaires étrangères, M. Zarif, et son vice-président, M. Jahangiri. C'est un honneur qu'il soit notre président.
Et sauf que le président Rouhani n'a pas tous les pouvoirs en Iran, loin de là, beaucoup moins influent que le guide suprême de la révolution, Bertrand.
En effet, la plupart des fonctions régaliennes relèvent du guide suprême et sans son feu vert, la marge de manœuvre du président est restreinte. C'est ce qu'explique le directeur de la publication du site d'information Lettres Persanes, Rouhala Shahsavar.
Le président n'a pas le pouvoir immense, mais quand même le rôle du président définit le cap de politique, surtout externe du pays. On ressent les différents changements à chaque mandat présidentiel en Iran.
On dit aussi que le président joue un rôle pour la désignation de celui qui sera un jour le remplaçant du guide suprême.
Oui, mais ça dépend de son influence. Rouhani peut jouer un rôle parce qu'il est un ancien de la République islamique. Il était, dès le début de la révolution, ancré dans l'appareil politique, sécuritaire, militaire de la République islamique.
Quelle est la réalité de l'ouverture de l'Iran au monde aujourd'hui, après la levée des sanctions, levée au moins partielle?
C'est la première fois après 25 ans qu'on a une inflation moins de 10% en Iran. Les Iraniens ressentent que les prix n'augmentent pas tous les jours. Au niveau international aussi, on a vu avec l'accord nucléaire cette volonté de négocier avec le monde entier, tout en conservant les mêmes ambitions que l'Iran a suivies depuis des siècles au niveau régional.
Aujourd'hui, la situation contraint le président iranien à manœuvrer habilement face au guide, mais aussi face au tout-puissant gardien de la révolution, cette troupe d'élite considérée comme le véritable bras armé de la République islamique.
Bertrand Galichet, de retour de Téhéran, merci beaucoup. Comment recevez-vous ce reportage, Bernard Bourcane ?
Les Iraniens ont l'habitude d'être encerclés par des forces hostiles et donc l'hostilité aux États-Unis est toujours crainte. Le pouvoir du guide, qui décide de tout, est également dans toutes les têtes. Les élections viennent montrer, à Téhéran ou ailleurs, que la réalité des rapports de force avait changé. Et donc certes, sur le papier et dans la force qu'il a, les gardiens de la révolution, les Basidjis, les religieux traditionnels, sont une force conservatrice qui existe, qui fait 38%. Et les démocrates iraniens, ou les Iraniens normaux, qui depuis le début essayent d'avoir la liberté, l'indépendance et la République, qui sont les slogans de la République islamique, se sont bagarrés à plusieurs reprises. Et en France, il a fallu 100 ans pour que la République soit installée, en 1871. Les Iraniens, au bout de 37 ans, ont fait pas mal de progrès dans ce domaine-là. Les élections, ça compte. Et donc le rapport de force par rapport au guide, qui n'est que le représentant de toutes les forces conservatrices, ce rapport a changé. Il ne peut pas revenir en arrière. Sur le nucléaire, il a été contraint et forcé de négocier. Aujourd'hui, il essaie de résister. Et maintenant, il n'a pas le choix. Il faut qu'il ouvre la porte. Et donc, comme il veut sauver son régime, normalement, il va être obligé de faire des concessions. Les rapports de force ont changé. Et vous, dans votre reportage, vous montriez le fils d'un conservateur bontain. Il a changé d'avis. Il parle français. Il est allé à l'extérieur. Même s'il est très anti-américain, il change de philosophie. Et donc, on a aujourd'hui une dynamique qui est en marche. Le seul problème, c'est qu'il ne faudrait pas que, comme en 2003, ou à l'époque de Ratami, où les ouvertures étaient là, il y a eu une hostilité internationale contre l'Iran qui a bloqué le processus et a bunkérisé l'Iran. Il faudrait faudrait éviter que Trump aujourd'hui se lance dans cette aventure.
Justement, on repart à Téhéran. Mariam Pirzadeh, comment sont perçues ces attaques directes de Donald Trump?
Elles ont été très très mal vécues hier par les Iraniens parce que justement, quand on voit ces images de liesse populaire vraiment jusque très tard dans la nuit, j'insiste sur ce point car cela fait 2 ans et demi que je suis correspondante ici et je l'ai vu seulement à 2 reprises, le soir de la signature de l'accord sur le nucléaire et lors de la réélection d'Hassan Rouhani. Donc c'est la réponse qu'ils ont postée sur les réseaux sociaux, c'est sur cet espace virtuel que les Iraniens s'expriment en général sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook pour dire bah voilà, vous voulez nous isoler, regardez, nous avons voté et il y a la démocratie. Et beaucoup, ce nom de démocratie est revenu beaucoup dans leur bouche. Ils l'ont très mal vécu parce que même s'il y a eu cet accord sur le nucléaire, il y a encore des sanctions américaines, il y a encore une espèce de chape de plomb sur les entreprises européennes qui ont peur de la réaction des Américains et qui du coup ne concluent pas de contrat avec les entreprises iraniennes. Donc finalement c'était un cercle vicieux. On reproche à Hassan Rouhani d'avoir trop donné pour cet accord nucléaire et qu'il n'y ait pas assez de retombées économiques. Mais d'un côté, il y a les Américains qui mettent une pression sur les banques européennes et sur les sociétés européennes. Et du coup, effectivement, il n'y a eu que 2 milliards de dollars qui sont rentrés dans les caisses de l'État depuis cet accord sur le nucléaire iranien. Donc, ces Iraniens savent bien que l'arrivée de Trump, de toute façon, n'est pas une bonne nouvelle. Et là, Hassan Rouhani s'est exprimé lors d'une conférence de presse il y a une heure. Et il a eu un discours très modéré par rapport à ces attaques. D'ailleurs, il n'a pas du tout mentionné Donald Trump dans son allocution, dans son introduction. Ce sont les journalistes qui lui ont posé plusieurs questions. Il a dit, voilà, notre meilleure réponse, c'est ces jeunes qui ont voté, cette population qui a voté, les Saoudiens ne connaissent même pas ce qu'est un bureau de vote. Et il a dit que les Iraniens n'étaient pas les ennemis des Américains. Donc finalement, les Iraniens se mobilisent sur les réseaux sociaux pour montrer que ces déclarations sont absolument fausses. Ils le prennent très mal. Et puis Hassan Rouhani, qui a eu un discours extrêmement pesé alors qu'il aurait pu tout à fait tomber dans le piège et renchérir sur la menace et sur ses déclarations très belliqueuses finalement.
Bernard Bourcade.
Oui, je suis bien d'accord là-dessus. Les Iraniens traitent pour le mépris un peu cette situation et la réponse électorale est importante. C'est le seul pays du Moyen-Orient où le gouvernement est contraint d'évoluer, qui a une certaine stabilité. Et dans ce qui se passe en Syrie ou ailleurs, il y a un problème. Et donc l'Iran a un rôle important. En France aussi, c'était signalé, l'élection en France est un peu parallèle à celle de l'Iran, entre deux forces un peu équivalentes, avec une dynamique un peu équivalente et des questions. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement la France notamment et l'Europe jouent tout son rôle dans la crise du Moyen-Orient. Il y a une politique nouvelle en France avec des hommes nouveaux. La question qui se pose, et on voit plusieurs médias ou plusieurs lobbies qui se mettent en place pour effectivement reprendre les discussions de 2003 quand Chirac était contre l'invasion de l'Irak et certains étaient pour. Et on voit en France un certain nombre de lobbyistes et de gens très sérieux qui publient des bouquins et font une campagne depuis quelques jours pour que l'Iran, pour que la France effectivement soit contre l'Iran et rejoigne les États-Unis dans cette politique pro-saoudienne et anti-iranienne qui, à mon avis, est facteur de crise et de drame, surtout pour les Syriens à court terme.
En quelques mots, et ce sera ma dernière question, Bernard Bourcade, qu'est-ce qui a changé finalement depuis les accords de 2015 dans le quotidien des Iraniens? Si on revient à ces attentes de la population.
Oui, les attentes ont été immenses, évidemment. La porte américaine est ouverte pour faire bref, donc tout le monde attendait de l'Eldorado et on pensait que quand on signe un accord avec une entreprise, 5 minutes après, il y a 5 000 emplois de créés. Non, il faut 5 ans entre la signature d'un accord et les résultats. On comprend l'impatience des Iraniens. Ils ont quand même dit d'accord, pas à 80%, à 57%, ce qui est bien, c'est tranquille, ce n'est pas de la propagande. Et donc on peut espérer qu'effectivement les choses changent, à condition que les Européens notamment prennent toute leur part dans la politique de calme et de sérieux dans les tribus du Moyen-Orient.
Ben écoutez, on va suivre ça de très très près Inch'Allah. Dans les semaines qui viennent. Merci infiniment Bernard Bourcade, géographe, spécialiste de l'Iran. Et merci à Mariam Pirzadeh qui était en direct de Téhéran, correspondante de France 24 en Iran. Dans un instant, le Venezuela.
Ventiladas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, avec vous Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Mickaël.
Et un seul et unique sujet au menu ce soir, Olivier, la crise vénézuélienne avec de nouvelles manifestations qui ont eu lieu ce week-end à Caracas.
8e semaine consécutive de mobilisation pour réclamer le départ du président Nicolas Maduro, une 48e victime ce week-end après des affrontements entre l'armée et plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les villes du pays. Des rassemblements aussi de soutien plus pacifiques un peu partout dans le monde, comme à Paris, samedi, place de la République. autour du violoniste vénézuélien Alexis Cárdenas. Des dizaines de ressortissants, dont certains ont décidé de fuir leur pays, aujourd'hui plongé dans une guerre civile de basse intensité, un terme que vous-même n'hésitez pas à employer. Christophe Ventura, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Spécialiste de cette région à l'IRIS, l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique. Christophe Ventura, qu'entendez-vous par guerre civile de basse intensité ?
On est dans un entre-deux aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai choisi cette expression qui me semble dire à la fois quelque chose sur l'intensité, croissante, hein, de ce conflit politique, et en même temps qui nous dit aussi que ce pays reste encore, un pays dont les institutions sont debout, et on est quelque part entre les deux avec une violence qui a des moments de haut et des moments de bas, et même si actuellement on est plutôt dans un moment de haut.
Est-ce qu'on peut dire que clairement Nicolas Maduro a tenté ces derniers mois, ces dernières semaines, de mettre la main sur tous les organes du pouvoir ?
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Il a renforcé les siens dans ceux qu'il détient, c'est-à-dire l'exécutif, mais il n'a pas, si vous voulez, d'autres pouvoirs constitutionnels comme l'Assemblée, évidemment, qui est au moins de l'opposition.
Mais est-ce que la tentative de transférer les pouvoirs du Parlement dans les mains de la Cour suprême il y a quelques semaines, est-ce que c'est pas clairement une tentative de museler l'opposition ?
Alors c'est cette décision-là qui a finalement impulsé ou déclenché la phase actuelle de manifestation et des 40-50 jours de mobilisation d'opposition actuelle. Mmh. Le problème, c'est que aujourd'hui au Venezuela, on est dans une situation qui ne supporte pas en réalité une lecture, j'ai envie de dire, un peu unilatérale ou binaire sur ce qui se passe, parce qu'on a des camps aujourd'hui qui ne trouvent plus les moyens, les médiations de se parler dans le cadre d'une opinion publique qui largement, si vous voulez, ne se retrouve pas vraiment ni dans l'opposition qu'on voit aujourd'hui et qui par ailleurs aujourd'hui est aussi critique par rapport au gouvernement.
Et dans cette situation, dans ce blocage politique, quelle est la responsabilité selon vous de l'opposition ?
L'opposition a des responsabilités parce qu'à partir du moment où elle n'a pas reconnu l'élection même de Nicolas Maduro, ça ouvrait la perspective d'un bras de fer qui ne s'est pas démenti par la suite. Et l'opposition, il faut bien comprendre qu'elle est très éclatée. Ce n'est pas une opposition, homogène. Il y a des groupes politiques qui vont de l'extrême droite jusqu'aux sociaux-démocrates et aux conservateurs qui n'ont qu'un point commun, c'est de faire tomber le président Maduro, mais qui au-delà de ça sont divisés sur à peu près tout.
Christophe Ventura, jeudi dernier, les États-Unis ont décidé de placer 8 membres de la Cour suprême vénézuélienne sur leur liste noire financière. Est-ce que, comme le prétend le gouvernement Maduro, les États-Unis sont en train de manœuvrer en coulisses pour soutenir cette opposition dont on parle ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que M. Trump, qui au départ ne fait pas du Venezuela un dossier prioritaire pour lui, ça n'a pas été un dossier prioritaire de sa campagne électorale. En revanche, il est clair qu'aujourd'hui, ça lui permet de satisfaire une partie de la droite des Républicains qui est très impliquée sur le dossier vénézuélien. Il faut se rappeler, par exemple, que Marco Rubio, qui était l'un des concurrents de M. Trump dans la primaire des Républicains, est très, très engagé auprès de l'opposition au Venezuela. Et donc, M. Trump, de ce point de vue-là, ça lui permet d'avoir des points de contact avec les Républicains pour des questions politiques intérieures. Mais on n'est pas dans un scénario aujourd'hui où je crois que les États-Unis pourraient, comme ils l'ont fait en 2002, soutenir directement une opposition dans un coup d'État, par exemple. Je crois qu'on n'est pas là aujourd'hui.
On va revenir à la rue maintenant, Christophe Ventura. La Fédération médicale vénézuélienne, elle aussi, appelle à manifester aujourd'hui et parle d'un véritable holocauste de la santé imposé par le gouvernement.
Écoutez, je crois qu'il faut être prudent sur les expressions des uns et des autres parce que vous êtes vraiment dans une guerre aussi qui est une guerre de la communication où le champ médiatique est un terrain d'affrontement entre les chavistes et l'opposition. Donc il y a une sorte d'inflation aussi de formules. Je ne sais pas ce qu'entend la Fédération médicale par holocauste médical, je ne me prononcerai pas là-dessus. Si c'est pour dire qu'aujourd'hui au Venezuela, il y a des pénuries de médicaments, c'est juste, c'est tout à fait vrai. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des pénuries sectorielles ponctuelles. On peut trouver de tout pour s'approvisionner au Venezuela à partir du moment où on peut le payer. Or, la difficulté, elle est là, c'est qu'évidemment, une majorité de la population ne peut pas se payer les biens de consommation parce qu'avec l'inflation, ils sont inaccessibles.
Comment sortir de cette crise, de ce blocage politique aujourd'hui ?
La seule façon d'en sortir, ce serait qu'il y ait un dialogue politique qui se mette en place au Venezuela. Alors là aussi, il faut savoir que des initiatives ont été mises en place qui aujourd'hui, hélas, ne fonctionnent plus. Le pape a beaucoup agi pour que se mette en place cette table de dialogue. Il n'a pas été entendu par une partie de l'opposition vénézuélienne. Donc on est dans un blocage aujourd'hui, puisque il est très clair que l'option choisie par l'opposition, c'est plutôt la stratégie de la tension et de l'affrontement pour aller vers ce qu'il souhaite, c'est-à-dire que le gouvernement tombe. Que répond le gouvernement? Il ne tombera pas. Maduro a dit qu'en gros, il ne céderait pas sur le fait de donner des élections anticipées, qu'il considère son mandat va jusqu'à l'année prochaine et que l'année prochaine, il y aura des élections présidentielles qui auront lieu et que les Vénézuéliens décideront à ce moment-là.
Merci à vous, Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS et spécialiste du Venezuela, où la médiation est donc dans l'impasse, et ce, malgré les tentatives du Vatican.
Et le Vatican, justement, Olivier, que l'on compare souvent et pourtant à une superpuissance diplomatique.
Et le Venezuela est au cœur d'une stratégie plus globale initiée par le pape François à son arrivée, replacer le Saint-Siège au centre de la scène internationale, stratégie que nous allons évoquer avec notre correspondante à Rome, Mathilde Imberti. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir à tous.
Clairement, si l'on prend l'exemple du Venezuela, le pape François met un point d'honneur à débloquer la situation.
En effet, Olivier, le pape François suit de près la situation au Venezuela. Il y a 18 mois environ, il a dépêché Monseigneur Celli sur place, un diplomate italien des plus chevronnés. Et puis en parallèle, la communauté catholique de Sant'Egidio mène aussi une action de médiation à Caracas. Il s'agit de personnalités laïques proches du Vatican qui ont fait leurs preuves, notamment en Colombie. Et c'est Gianni Labella qui mène les médiations pour Sant'Egidio au Venezuela.
Le pape connaît très bien la situation de Venezuela et il a choisi personnellement de s'engager dans cette situation. La situation au Venezuela, c'est une situation critique. Le président de la République, Maduro, il a demandé au Saint-Siège de faire quelque chose. Il a commencé un dialogue entre le Saint-Siège, l'État vénézuélien et l'Église du Venezuela. Après, il était possible de faire un dialogue avec les partis de l'opposition. Maintenant, je dirais que cette médiation, il est un point critique. Il n'y a pas pour le moment de possibilité d'aller plus avant encore. Parce que l'opposition, elle a refusé l'idée de continuer un dialogue à cette table de dialogue avec le gouvernement et il a demandé comme condition préalable les élections politiques.
Le préalable des élections politiques, le Saint-Siège est aussi sur cette ligne-là. En tout cas, sa médiation au Venezuela est à ce stade au point mort.
Le pape François, Mathilde, qui a fait de l'Amérique du Sud sa priorité, hein.
C'est son continent, l'Amérique du Sud. Le pape François est argentin, comme vous le savez, alors cela joue nécessairement. À Rome, il a placé au plus haut poste de la curie des experts du continent. Le numéro 2 du Vatican, le cardinal Parolin, a été nonce, c'est-à-dire ambassadeur du Saint-Siège au Venezuela. Le numéro 3, Monseigneur Becciu, a été nonce à Cuba. Cuba qui signe l'une des victoires diplomatiques de l'ère François, la réconciliation entre Washington et la Havane. Cuba serait l'illustration parfaite de l'expertise diplomatique du Vatican, nous confirme le diplomate Monseigneur François Baquet. Cet ecclésiastique français a été formé à l'ENA, puis à la prestigieuse Académie Pontificale Ecclésiastique, l'école de formation des diplomates au Vatican.
Le Saint-Siège a eu un rôle certain pour la reconnaissance de Cuba par Washington. L'archevêque de la Havane a joué un grand rôle, le nonce a joué un grand rôle, mais il y avait la volonté du Saint-Père derrière. Donc vous avez vu que le pape est allé à Cuba, le pape est allé rencontrer aussi le patriarche de Moscou à Cuba, ce qui était quand même un lieu un peu imprévu. C'est pas toujours facile à pouvoir définir exactement l'action, mais il y a une influence, il y a une action. L'Église catholique, le siège apostolique sont présents.
Une puissance diplomatique considérable pour un État microscopique, Mathilde, de seulement 44 hectares.
Oui, mais l'Église catholique, c'est un réseau mondial inégalé et surtout, particularité, réseau centralisé à Rome, autour d'une personne, le pape, qui est à la fois leader spirituel, chef d'une Église forte de 1,2 milliard de fidèles et chef de l'État de la Cité du Vatican. Le Saint-Siège envoie envoie des représentants partout dans le monde, les nonces apostoliques, les ambassadeurs. Monseigneur Baquet a exercé en tant que nonce sur presque tous les continents.
Le Saint-Siège est pratiquement présent dans tous les pays du monde au point de vue diplomatique. Officiellement, il n'y a pas, malheureusement, avec l'Arabie saoudite. Et il n'y a pas encore, mais ça c'est en gestation, la Chine continentale. Oui, il y a une influence du pape partout. Alors il y a des nonces partout. Il y a pratiquement 125 nonces en fonction pour 200 nonciatures. Je m'explique. Vous avez des nonces qui ont plusieurs pays. Mais le pape François donne beaucoup d'importance aux nonces. Il les reçoit facilement, il les écoute, il les consulte. Il est très actif et intervenant beaucoup. On voit sa marque même dans les nominations. Vous voyez, par exemple, en Centrafrique, il y avait un nonce jeune, situation difficile, il a sans doute très bien fait, il lui a donné un poste très important en seconde nomination, ce qui n'est pas du tout l'habitude. J'ai nommé au Mexique. Le Mexique, c'est le plus grand pays catholique du monde. Et je dirais du pape François, c'est un géopolitique.
Un géopolitique qui veut prendre sa part dans les processus de paix, qui estime central à ce titre le dialogue entre les religions. Les prochains voyages du pape le conduiront en Colombie en septembre, au Soudan du Sud, il l'espère à l'automne. D'ici là, il reçoit les personnalités au Vatican. Après-demain, c'est au tour de Donald Trump de venir ici à Rome et il faudra beaucoup de doigté diplomatique pour que cette rencontre porte des fruits.
La correspondance depuis Rome de Mathilde Imberti sur cette diplomatie. Vatican qui, après son succès cubain, peine à trouver pour l'instant la clé du dossier vénézuélien.
Dossier vénézuélien signé ce soir, Olivier Poujade. Merci.
Get down. The 45th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Un jour dans le monde.
And God bless America.
Sur France Inter.
Et à 18h47, comme chaque lundi, direction maintenant les États-Unis, Trump à la Maison-Blanche. Bonsoir mon cher Frédéric Carbone en direct de Washington.
Bonsoir Michael, bonsoir à tous.
Alors on le disait il y a quelques minutes, le président américain effectue donc sa première tournée internationale, aujourd'hui en Israël, après une première étape ce week-end en Arabie Saoudite. Et là Frédéric, incroyable autosatisfait de l'administration Trump, pour qui l'escale saoudienne est un total succès, hein.
C'est vrai, l'entourage de Donald Trump n'attend même pas la fin de cette longue tournée pour publier des communiqués de victoire. Le d'habitude très discret Jared Kushner, gendre et conseiller privilégié du président américain, se félicite donc que grâce à cette étape saoudienne, le monde commence à être plus uni contre l'intolérance et le terrorisme. Il y a une forme de précipitation parce qu'il est urgent que cette tournée efface, corrige au moins en tout cas l'impression de chaos à la Maison-Blanche après la semaine folle autour de l'enquête russe. Tous unis, tous sur la photo et tous le même discours. Relayé ici par Newt Gingrich, responsable républicain très proche de Donald Trump.
La réalité, c'est que les Américains sont intelligents. Ils voient un leadership historique de la part de Trump et puis ils voient des ragots dans les médias qui relaient les fuites. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un vrai moment historique provoqué par un vrai dirigeant. Le président américain entraîne toute une région dans un nouveau partenariat antiterroriste et tous les Américains doivent en être fiers.
L'enthousiasme donc des partisans de Donald Trump et de fait cette étape de Riyad est assez généralement considérée comme un succès pour le président américain mais avec un vrai bémol exprimé dans les commentaires et par les démocrates. Aucun mot, aucun signe sur la question des droits de l'homme au milieu d'une assemblée de dirigeants souvent autoritaires. Nous ne sommes pas là pour faire la morale, a clairement dit Donald Trump. À long terme, c'est très préjudiciable, lui répond Adam Schiff, élu démocrate au Congrès.
La promotion de la démocratie et des droits de l'homme devient totalement secondaire. Et c'est une façon de renoncer à notre influence globale que de ne pas défendre ceux qui sont persécutés, mis en prison ou ne peuvent pas pratiquer leur foi. Ce serait une erreur historique que de reculer ainsi.
Voilà pour les regrets démocrates, mais on l'a bien compris, en Arabie Saoudite hier comme en Israël aujourd'hui, un des objectifs prioritaires de Donald Trump, c'est bien de montrer que l'ère Obama est bel et bien révolue.
Et ça, on l'a bien compris, hein. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, Frédéric, eh bien, les républicains continuent de se déchirer, soutenir ou ne pas soutenir Trump.
Effectivement, parce que tous les républicains espèrent que cette semaine de voyage à l'étranger va offrir un répit dans la tourmente, mais les soupçons d'obstruction de justice de la part de Donald Trump, la désignation d'un procureur spécial, tout ça a clairement donné une nouvelle ampleur à l'enquête russe. Et si vous avez pour le moment un seul élu républicain qui parle ouvertement de risque de destitution, tous expriment leur frustration que les dossiers qui concernent directement les Américains, santé, impôts notamment, n'avancent pas et ils veulent que la vérité éclate. Quelles qu'en soient les conséquences, voici Marco Rubio, sénateur républicain de Floride.
Si un président essaie de manipuler une enquête en intervenant auprès du FBI, c'est plus qu'un problème, c'est potentiellement une obstruction de justice. Et il faudra prendre une décision, quel que soit le président.
Alors, vous entendez les précautions oratoires, l'emploi du « si », et Marco Rubio ajoute qu'il n'a pas aujourd'hui les éléments en main pour se faire une idée. Mais ils sont nombreux à regretter que Donald Trump se contente de parler de chasse aux sorcières. Et il faut que le patron des Républicains à la Chambre, Paul Ryan, lance une sorte de rappel à l'ordre.
We need the facts.
Nous avons besoin de connaître les faits. Il est évident que des gens veulent affaiblir le président. Et nous demanderons à M. Comey si tout cela s'est bien passé, pourquoi n'en a-t-il pas parlé avant ?
Ça, c'est la théorie du règlement de compte de la part de l'ancien directeur du FBI et plus généralement de la part des agences de renseignement vis-à-vis d'un président américain qui les bouscule et en qui elles n'auraient absolument pas confiance.
Et d'autant que dès son retour à Washington, Donald Trump devra faire face au témoignage de James Comey, l'ex-directeur du FBI, auditionné par le Sénat.
Absolument, il a accepté cette audition en public dont la date n'a pas été fixée, mais ce ne sera effectivement pas avant la semaine prochaine. Événement très attendu, vous l'imaginez, où il sera question de ces fameuses notes dans lesquelles James Comey aurait notamment évoqué des pressions de la part de Donald Trump pour mettre un terme à l'enquête russe, en tout cas le volet concernant Michael Flynn, l'ancien conseiller à la sécurité nationale. Alors en attendant la parole de James Comey, ce sont ses proches qui s'expriment, qui racontent le malaise du directeur du FBI face au président américain, son impression qu'il s'intéressait de trop près à l'enquête, son refus de créer un lien trop personnel avec Donald Trump, et Benjamin Wittes, un de ses proches, dément la version du président américain selon laquelle c'est Comey qui sollicitait tous ces rendez-vous pour s'accrocher à son poste.
Il n'essayait pas de sauver sa place. Quand Donald Trump dit ça, c'est juste un énorme mensonge. Il essayait de laisser Trump à l'écart de l'enquête et de protéger le FBI de Trump. Il savait que cela pouvait lui coûter sa place, et ça a été le cas.
Vous entendez l'ambiance film d'espionnage, Michael, et effectivement, vous dites que ce témoignage de James Comey sera absolument essentiel. À l'inverse, Michael Flynn, au cœur de l'enquête, fait lui valoir son droit constitutionnel pour refuser de fournir des documents et de témoigner au Congrès. En revanche, il sera obligé de répondre à une éventuelle convocation du procureur spécial.
Et pour finir, Frédéric, retour donc à ce voyage présidentiel avec le gaffeur de l'équipe Trump.
Oui, il s'appelle Wilbur Ross, secrétaire au commerce, et on l'a d'abord vu clairement s'assoupir hier pendant le discours de Riyad de Donald Trump. Peut-être était-il fatigué de la fête de la veille du samedi soir. L'image n'est pas terrible, mais le son, il est presque pire, dans le registre de revendication du grand succès de cette étape en Arabie Saoudite. Écoutez ce que disait Wilbur Ross ce matin, interrogé par la chaîne CNBC.
Ce qui m'a fasciné, c'est qu'il n'y a eu aucun signe de protestation partout où l'on est passé. Et que finalement...
Mais secrétaire Ross, c'est peut-être parce qu'il y a eu des contrôles stricts et que les gens ne peuvent pas exprimer leurs sentiments, comme c'est le cas chez nous.
En théorie, c'est peut-être vrai, mais croyez-moi, il n'y avait aucun signe, aucun appel. Vraiment, il n'y avait rien.
On en revient donc à cette question des droits de l'homme et on se dit que peut-être l'entourage de Donald Trump envie ce régime saoudien où la justice ne vient pas se pencher sur les turpitudes éventuelles des dirigeants et où le peuple n'a pas le droit de manifester ni ses inquiétudes ni sa colère.
C'est dit, Frédéric Carbone en direct de Washington. Merci beaucoup.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
18h54, l'heure de l'édito. Bonsoir Anthony Bélanger.
Bonsoir Mickaël.
Et ce soir Anthony, direction l'Espagne. L'Espagne qui a connu hier une élection chamboule tout.
Eh oui, l'expression de Laurent Fabius devient un tube en Europe. Pays après pays, tous les sortants sont sortis. Et l'Espagne ne fait pas exception. Hier, les militants du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, vous savez, le PSOE, choisissaient leurs dirigeants, trois candidats pour cette primaire. Susana Díaz, soutenue par les barons présents et passés. Pedro Sánchez, un ex-premier secrétaire, débarqué sèchement en 2016. Et puis Paxi López, vous savez, le candidat du milieu. Que croyez-vous qu'il arrive à Michael ? Eh bien, les militants ont puni les petits marquis du socialisme, spécialistes du billard à trois bandes et de l'entourloupe. Or, les grands d'Espagne avaient ces derniers mois fait deux paris. Le premier, se débarrasser de Pedro Sánchez, ce roturier de 45 ans, qui avait été élu en 2014 par les militants sans leur adoubement, ces choses faites en octobre 2016. Le second, mettre à sa place une longue, très longue période de transition, histoire de faire oublier le sale petit meurtre d'octobre, puis susciter l'enthousiasme béat des militants devant l'adoubement d'une candidature unitaire féminine, donc moderne, celle de Susana Díaz. Grosso modo, la noblesse espagnole socialiste a pris les militants pour des manants. Dans leur esprit, un militant socialiste, ça oublie, ça se gronde et à la fin, ça obéit comme un vaurien. Évidemment, la bofetada, la baffe aller-retour, était servie.
Bon, alors les militants ont donc remis à leur tête, comme vous dites, le roturier de 45 ans. Mais qu'est-ce que ça change ?
Mais tout, ça change tout. Jusqu'à présent, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol avait choisi de laisser gouverner la droite espagnole, en l'occurrence le Parti Populaire de Mariano Rajoy, un parti qui gouverne donc avec une majorité très étroite et totalement relative. Or, le roturier de 45 ans, Pedro Sánchez, le site de la politique espagnole, comme les commentateurs commencent à l'appeler, vous savez, nous partîmes 500 mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Bon bref, ce roturier de la politique espagnole a promis d'en finir avec cette alliance de revers contre nature et qui s'est faite dans le dos des électeurs. Lui, il a en tête le Portugal voisin et l'alliance de toutes les gauches qui gouvernent sans problème depuis 2015. Le Premier ministre est socialiste là-bas au Portugal et il est soutenu par les communistes et l'équivalent portugais des insoumis, à savoir le Bloco de Esquerda. L'idée, c'est donc à gauche toute. C'est d'autant mieux perçu par les Espagnols que le Parti Populaire de Mariano Rajoy n'en finit pas d'enfiler comme des perles les cas de corruption gravissimes. En résumé, le Parti Populaire est à bout de souffle et gouverne en minorité. Le Parti Socialiste a désormais un secrétaire général de combat de 45 ans dont le slogan est à gauche toute et à la Moncloa. La Moncloa, c'est le siège madrilène du Premier ministre espagnol.
Et en conclusion, un socialiste espagnol à peine plus âgé qu'Emmanuel Macron sera donc bientôt Premier ministre.
Oui, mais Michael n'est pas le Portugal qui veut. Il y a deux écueils sur le chemin de la Moncloa. D'abord, il y a Podemos, vous savez, la haine qui anime les insoumis français lorsqu'ils évoquent leurs alliés communistes ou socialistes. Eh bien, elle est aussi violente du côté de Podemos en Espagne. Une haine si tenace que Podemos a obligé les Espagnols à voter deux fois, c'était en 2015 et 2016, parce qu'ils pensaient faire mieux que la seconde fois et dépasser les socialistes, ils ont fait évidemment moins bien. Sauront-ils ravaler leur rancœur pour devenir un allié minoritaire au sein d'un gouvernement de gauche ? Rien n'est moins sûr. Enfin, il y a l'éternelle question catalane. Faut-il ou non organiser un référendum d'autodétermination à Barcelone ? Pedro Sanchez pense pour le oui, Podemos aussi, mais la question rend fou les barons de la politique espagnole, de droite comme de gauche. En clair, le chemin de la Moncloa risque d'être assez ardu.
Anthony Bélanger, merci. Dans une vingtaine de minutes, le téléphone sonne sur le premier chantier du quinquennat, la moralisation de la vie publique. François Bayrou a entamé ses consultations aujourd'hui. Objectif, un projet de loi avant les législatives des 11 et 18 juin. Le garde des Sceaux veut faire vite et fort, une douzaine de propositions sur la table, dont l'interdiction à tout élu ou ministre d'embaucher un membre de sa famille. Alors suffisant, nécessaire, vos questions, vos commentaires dès maintenant au 01 45 24 7000 et dans moins de 2 minutes, le journal de 19h.